Les témoins de l'invisible, une émission préparée, présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Aux États-Unis, on les appelle des Near Death Experience. Vous excuserez mon accent. Des NDE, ce sera plus facile. En France, on dit plutôt des EMI, expériences de mort imminente. Je suis sûr que tous, vous avez plus ou moins entendu parler de ces étranges phénomènes que rapportent des gens du retour d'un coma ou dans une salle de réveil après une opération. Ils disent qu'ils ont vu un long tunnel au bout duquel brillait une lumière ineffable, ils ont vu des êtres de lumière, parfois connu l'amour absolu, souvent, et ces témoignages ont été portés à la connaissance du public la première fois par un médecin américain dans les années 70, le docteur Raymond Moody, qui fut l'auteur d'un livre qui a connu un succès mondial, « La vie après la vie ». Puis d'autres chercheurs se sont emparés du phénomène pour l'étudier sous tous les angles, médical, psychologique, voire statistique. De nombreux livres continuent d'être publiés sur les EMI, ils ne présentent pas tous un intérêt égal, soyons clairs, mais le plus complet à coup sûr en France est celui du docteur Jean-Pierre Jourdan, Deadline, que vous trouverez en livre de poche et qui expose 20 ans de recherche sur le sujet. Le docteur Jourdan a accepté de répondre à nos questions dans le cadre d'une série d'émissions sur les EMI, dont voici la première. Docteur Jourdan, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder de votre temps qui doit être précieux, on n'en doute pas. Alors la première question va être basique. Qu'entend-on par expérience de mort imminente ?
Alors, la réponse est un peu complexe parce qu'en fait, ces expériences sont mal nommées. Alors, c'est vrai qu'elles ont été mises en évidence par le docteur Moody à travers des réelles expériences de mort imminente, c'est-à-dire chez des personnes qui étaient dans un état qui laissait penser qu'ils étaient très proches d'une mort. Si on faisait rien, on les réanimait. En même temps, toutes les recherches qui ont été faites sur le plan statistique en milieu hospitalier l'ont été dans des services de cardiologie ou de réanimation. Et effectivement, dans ces cas-là, on recueille des témoignages de gens qui ont été dans le coma, qui ont fait un arrêt cardiaque, qui ont eu un gros accident, un traumatisme crânien. Et effectivement, dans ces cas-là, on peut parler de mort imminente. Mais en fait, on s'est aperçu depuis pas mal de temps, et nous venons de le prouver récemment, on en parlera plus tard, que ces expériences peuvent très bien survenir dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec avec la mort ou avec l'imminence de la mort. Elles peuvent survenir dans des états très 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 divers, chez des gens qui ont pris des drogues par exemple, chez des personnes qui étaient en méditation ou spontanément comme ça, ou même dans certains cas, en faisant l'amour. Donc tout simplement, ces expériences, donc leur nom laisse penser qu'il s'agit de quelque chose qui est corrélé à un état proche de la mort, et c'est faux. Ceci dit, voilà, une expérience, ce qu'on appelle, on va garder ce nom pour l'instant, puisqu'on a, personne n'est d'accord pour une nouvelle appellation, il faudra qu'on y pense. Ces expériences, donc, sont définissables très simplement par le fait qu'il s'agit de personnes qui sortent d'un état où n'importe qui autour d'elles aurait juré qu'elles étaient inconscientes et où médicalement, dans un certain nombre de cas, elles étaient effectivement dans un état où leur cerveau ne pouvait pas ni percevoir ni mémoriser quoi que ce soit, et qui vous raconte donc quelque chose qui s'est passé pendant cette période d'inconscience, qui peut être un coma, qui peut être autre chose, et qui a un certain nombre de caractéristiques qui sont plus ou moins, qui sont variables selon les personnes. Moody avait défini un certain nombre de stades. Il ne faut pas croire que c'est un parcours obligé ou standard. Donc ces personnes, en général, il y en a pratiquement une sur deux qui vous dit avoir repris conscience dans un point extérieur à leur corps et qui vous disent avoir vu, entre guillemets, perçu, en tout cas, entendu, mais perçu aussi, parce que dans ces cas-là, on n'a ni yeux ni oreilles pour voir ou entendre ce qui se passait autour d'elles. Il s'agisse des pompiers en train de les désincarcérer, d'un cardiologue en train de les réanimer, enfin voilà. Ensuite, on retrouve, je dis ensuite, parce que c'est en général dans cet ordre-là, mais faut pas attacher trop d'importance à l'ordre des choses. Ces personnes vous disent avoir vu, avoir perçu une structure de passage, que ce soit un tunnel, que ce soit un pont, une porte, enfin, ou simplement quelque chose de vague, et une lumière qui les attire, qui est décrite la plupart du temps comme très forte, immense, mais non aveuglante. Et en fait, quand on leur pose la question, cette lumière, c'est pas une lumière physique, c'est pas quelque chose comme la lumière qu'on peut voir quand on a un projecteur dans les yeux ou quand on regarde le soleil ou quelque chose comme ça. Ils vous disent pratiquement tous que c'est de l'amour, avant tout. C'est quelque chose de chaud, d'enveloppant et qui est attirant par l'amour. C'est pas la lumière qui attire comme un moustique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça et c'est d'ailleurs ce qui marque les personnes qui ont vécu cette expérience. Après, dans un certain nombre de cas, ces personnes peuvent rencontrer des personnes disparues. Ce n'est pas très très courant, contrairement à ce qu'on croit. Il doit y en avoir peut-être 15%, ce n'est pas énorme. Il y a souvent aussi la rencontre de ce qu'on peut appeler un être de lumière, qui est quelque personnage, disons, qui est indescriptible la plupart du temps, qui est très souvent plein d'humour et d'amour, qui peut servir de guide d'une certaine manière. D'une manière symbolique, d'une manière, certaines personnes vous disent, il m'a pris la main, il m'a amené. Voilà, avec lequel il peut y avoir un échange d'informations, des questions, des réponses, mais qui sont décrites comme instantanées. C'est pas comme quand on se parle, on se pose une question, on réfléchit, on répond. Là, c'est quelque chose, c'est une espèce d'échange d'informations qui est très rapide, qui est instantané, qui est très complet. Certaines personnes voient aussi, ou on leur montre, par l'intermédiaire de ce personnage, des moments de leur vie, et d'une manière très étonnante, c'est-à-dire que ces personnes, d'abord, voient souvent des moments qui paraissaient sans importance, mais dans lesquels il s'est passé quelque chose. Ils comprennent l'échange qu'il y a pu y avoir de leur point de vue et du point de vue de l'autre personne, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte des tenants et des aboutissants de la situation. En comprenant, par exemple, s'ils ont fait quelque chose ou dit quelque chose qui a pu blesser quelqu'un, ils sont aussi, en même temps, ils vous disent que j'étais l'autre aussi, j'ai compris que ce que j'ai dit a fait du mal, j'ai compris ce que ça a fait. Et d'une manière profonde, en étant l'autre, c'est pas intellectuel en disant c'est pas bien ce que j'ai dit, c'est vraiment du vécu. Les personnes donc qui s'approchent de cette lumière ont envie de s'y fondre, et à un moment ou à un autre, où elles comprennent, où ça leur est dit, entre guillemets, par l'être de lumière, que c'est pas le moment, qu'il faut retourner, qu'on a encore quelque chose à faire, et qu'il faut. Il y a une espèce de limite qu'il ne faut pas dépasser. Et a priori, ben, cette limite, c'est la mort, je suppose. Dans certains cas, en tout cas, et par définition, pour revenir sur la problématique des expériences de mort imminente, ces expériences sont avant tout, c'est des expériences de vie, c'est des expériences qui changent la vie des gens qui les ont vécues. Ces gens-là n'ont pas mis un pied dans la mort. La mort est quelque chose de définitif. Il faut bien le savoir, le comprendre. Personne n'est jamais revenu de la mort pour nous dire ce qui se passe après.
En tout cas, les gens qui ont vécu cette expérience, généralement, ont aussi perdu la peur de la mort, souvent.
Oui, ils perdent la peur de la mort parce que, ça on pourra développer plus tard aussi, ces expériences donnent. Ils reviennent avec une notion du sens de la vie, de ce qu'est la vie, si vous voulez, de son importance, mais de ce fait, la vie est mise en perspective dans quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'inutile. Apparemment, la vie, bon, c'est un cadeau, c'est quelque chose d'extraordinaire, et on a quelque chose à vivre. Ils reviennent d'ailleurs, l'essentiel de ce qu'ils ramènent, c'est pas. Ça ne parle pas d'au-delà, ni de vie après la vie, ni de quoi que ce soit. Ça dit simplement, il y a deux choses importantes dans la vie, c'est aimer et apprendre. Et apprendre à aimer. Le reste, c'est sans importance.
On parlera après donc du contenu, effectivement, de ces expériences et puis des répercussions sur les expérienceurs, comme on les appelle. Vous l'avez dit, hein, les répercussions sont très importantes sur la vie des expérienceurs, leur manière de concevoir la vie et leur rapport avec les autres. Je vais m'intéresser à vous parce que vous avez me semble-t-il, entendu parler pour la première fois de ces expériences durant vos études de médecine. Dans quelles circonstances exactement et quelle a été votre première réaction?
Mon premier souvenir, en fait, il s'agit plus de... c'était des bruits de couloir à l'hôpital. C'était l'hôpital où je faisais mes premiers stages. Et un chirurgien qui était quelqu'un d'adorable, qui était très très compétent, c'était vraiment un très très bon chirurgien, et il avait l'habitude, pour dédramatiser un petit peu, il racontait des histoires, il faisait, il dédramatisait les interventions, même quand elles étaient graves. Et puis, un jour, il y avait un bruit qui a commencé à courir, c'était une patiente, et qui lui avait dit, écoutez, docteur, vous m'avez sauvé la vie, voilà, je voulais juste vous dire, faites attention comme pendant l'opération, parce que moi, j'ai tout vu d'en haut, j'ai vu tout ce qui se passait, elle lui a raconté en détail apparemment, et puis elle lui a raconté les blagues qui sortaient, quand il faisait les plans de sa maison, de la maison qu'il voulait faire construire sur son ventre avec de la bétadine, enfin des choses comme ça, quoi. Donc ça m'avait intrigué une fois. Et plus tard, enfin, il y a eu d'autres histoires comme ça. Et le premier cas qui m'a vraiment intrigué, c'était une patiente qui avait manifestement de gros problèmes. Elle n'arrivait pas trop à m'en parler. C'est quelqu'un qui n'osait plus sortir de chez elle. Elle ne voulait pas me dire pourquoi. Puis un jour, elle commence à m'expliquer. Voilà. En fait, c'est parce que je ressens ce que sont les gens, et quand je vais chercher le pain, si je suis à côté de quelqu'un de mesquin, c'est abominable, je deviens cette personne. Elle me regardait pour voir si je la croyais, enfin bon. Et en fait, cette dame, elle a fini par m'expliquer que lors d'une césarienne, elle a fait une hémorragie, elle a été déclarée morte, et en fait, elle a vécu une expérience de mort imminente, réelle, parce que là, elle était vraiment aux portes de la mort. Et elle a vu tout ce qui se passait, et quand elle s'est réveillée, quand on a fini par la réanimer, on l'a soignée, elle est rentrée chez elle, et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une espèce de... c'est plus que de l'empathie, elle percevait les autres d'une manière qui était insupportable. Quand elle était à côté de quelqu'un de sympa, de gentil, c'était bien, mais malheureusement, c'est peut-être pas ce qui est le plus courant. Et donc, c'était devenu impossible pour elle de sortir de chez elle, parce qu'elle avait peur d'être à côté simplement de personnes qui étaient insupportables au point de vue de leur mentalité, de leur être profond. Elle devenait ces personnes, elle avait une espèce de sensibilité aux autres. Et voilà, ça m'a vraiment posé des questions. J'ai commencé à essayer de voir s'il y avait quelque chose d'écrit là-dessus. Je suis tombé sur le livre de Moody, et c'était la seule chose qu'il y avait à l'époque. Et bon, voilà, depuis, j'ai pas arrêté de chercher à comprendre, parce que ces expériences posent énormément de questions.
On imagine que la réaction des médecins, au départ, c'est plutôt le doute. Les expérienceurs parlent d'amour infini, inconditionnel. Ça se trouve pas sous le scalpel d'un médecin. C'est bousculant, j'imagine.
C'est bousculant. Et puis, on n'a aucun repère pour ça. Pas plus les médecins que les personnes qui ont vécu l'expérience. Pour les gens qui ont vécu l'expérience, ça leur tombe dessus comme une espèce de paquet d'informations auxquelles ils ne s'attendaient pas, auxquelles ils ne sont pas préparés. Et pour les médecins, on n'apprend pas ça à la fac. C'est quelque chose qui est totalement illogique, en plus, puisque ça survient, en général, pour un médecin donc à l'hôpital, ça survient dans un état où la personne, on sait médicalement qu'elle est dans un état où elle ne peut pas avoir vécu ou se souvenir ou avoir perçu quoi que ce soit. Donc la première réaction, c'est vous avez rêvé, c'est les anesthésiques, c'est le coma, c'est le manque d'oxygène, enfin c'est des hallucinations. La première réaction, c'est ça. Donc la réaction, c'est bon, écoutez, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas fou, on va demander au psy de service de venir vous voir, vous discuterez un petit peu avec lui, et puis voilà. Et bon, mais les gens qui ont vécu quelque chose qui est quelque chose de fabuleux pour eux, ils se ferment comme des huîtres. C'est un peu la même réaction aussi avec leur entourage, d'ailleurs, quand ils essaient d'en parler avec leurs conjoints ou avec leurs enfants. On les regarde de travers, parce que ça, c'est quelque chose qui dérange.
Les choses sont peut-être en train de changer tout de même, grâce notamment à vos livres, à votre livre Deadline. Peut-être que les esprits s'ouvrent un peu plus, non, qu'à l'époque de Moody, par exemple.
Heureusement, parce que ça fait 25 ans que je travaille à ça, à essayer de faire prendre ces expériences au sérieux, à rassurer les personnes qui les ont vécues. pense que tous les gens qui ont lu mon livre, enfin, j'ai eu des centaines de remerciements de personnes qui avaient vécu cette expérience. Ce qui m'a rassuré, parce que bon, mais quand on écrit un livre, on ne sait pas ce que ça va faire. Et ils se sont reconnus là-dedans, ils me disent, bon, ben, ça, je me sens moins seul, ils en parlent. Ouais. Et effectivement, les médecins, maintenant, les scientifiques commencent doucement, parce que c'est encore... Il y a très peu de bonnes informations là-dessus, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui croient encore que c'est plus de l'escroquerie, de vendre aux gens ce qu'il faut pour les rassurer sur un certain nombre d'inquiétudes métaphysiques. Moi, j'essaie de faire comprendre que ces expériences sont quelque chose d'extrêmement sérieux, de cohérent. C'est des expériences de conscience, avant tout, qui ont une importance énorme pour la compréhension de ce que peut être la conscience. Et, ça vient. Disons.
Ouais. Alors on va peut-être prendre un peu dans le détail les différentes étapes, même si d'une NDE à l'autre, les contenus peuvent être différents, mais quand même, il me semble qu'il y a des invariants. Par exemple, je voudrais qu'on parle de la sortie du corps, parce que là, l'expérienceur a la surprise de découvrir son corps de l'extérieur, finalement, ce qui est très étrange et très, alors là encore aussi, très très bousculant, mais finalement, les expérienceurs ne sont pas tellement choqué par ce qu'il découvre souvent.
Alors la première des choses, c'est parler de sortie du corps, ça donne l'impression que les gens sortent de leur corps. En fait, ce qui se passe, et ça c'est systématique, ils sont dans le coma, ils sont inconscients pour une raison X, ils prennent conscience instantanément, ils sont en dehors de leur corps. Ils ont l'impression de percevoir depuis un point extérieur à leur corps. À aucun moment, ils n'ont l'impression de sortir de leur corps. Ça, quand on a l'impression de sortir de son corps, c'est dans d'autres expériences qui sont parfaitement expliquées sur le plan neurologique, qu'on peut appeler des paralysies du sommeil ou des choses comme ça, qui ressemblent un petit peu, mais qui n'ont rien à voir avec les vraies expériences de mort imminente. Donc, la première des choses, effectivement, c'est une personne qui est dans le coma, qui est inconsciente, qui se retrouve hors de son corps, d'un instant à l'autre, et qui perçoit ce qui se passe autour, qui voit un corps, effectivement, abîmé ou tout bleu, ou enfin bon, qui ne le reconnaît pas forcément tout de suite, et à un moment, c'est moi ça. Et là, ça fait quand même une impression bizarre. Mais en même temps, il y a pratiquement toujours un détachement, c'est-à-dire que ce corps n'a pas d'importance. Et les expérienceurs se disent, mais pourquoi tout le monde s'affole autour de ce corps? Moi, je suis très bien. Enfin, une des premières caractéristiques, d'ailleurs, de ces expériences, c'est un état de détente absolue. Les gens vous disent, ils ont l'impression de rentrer à la maison, de retourner chez eux, d'être dans un état où il n'y a aucun conflit, il n'y a pas de questions à se poser. Donc, ils ne s'en posent pas plus sur leur corps qui est en train de mourir éventuellement que sur quoi que ce soit d'autre sur le moment.
Ouais. Et il faut le préciser, vous l'avez dit tout à l'heure en donnant un exemple hospitalier, c'est que les expérienceurs entendent parfaitement les paroles échangées, par exemple dans un bloc opératoire. Ils sont capables ensuite, à leur réveil, à leur retour, on va dire, dans les limites corporelles, de dire bah voilà, vous avez dit ça, vous avez fait ça.
Non seulement ils sont capables de dire ce qu'ils ont entendu, mais dans certains cas, j'ai plusieurs témoignages dans ce sens, ils ressentent les émotions des personnes présentes. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça pose une question supplémentaire, bien entendu, mais c'est pas une question uniquement de perception habituelle, si vous voulez. Ce qu'on peut supposer, dans cet état-là, il y a une perception d'information, et après le cerveau va retranscrire ça sous forme visuelle, sous forme auditive, mais en fait c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça.
Alors ensuite, il y a l'étape de la vision du tunnel. Est-ce qu'on peut parler d'un tunnel vivant aussi? On a souvent l'impression que ce qui est vu n'est pas du domaine du spectacle, hein, mais vraiment tout est vivant, tout est même plus vivant que ce que les expérienceurs vivent à l'état de veille ordinaire, comme nous par exemple.
L'état de conscience dans lequel ils sont, en général, ils vous disent qu'ils étaient beaucoup plus conscients qu'en temps normal, que leur pensée, entre guillemets, allait à la vitesse de la lumière, et ils perçoivent les choses d'une manière beaucoup plus fine. Et comme je vous disais tout à l'heure, le tunnel, en fait, c'est une notion de passage, en fait. Alors, il peut y avoir une sensation de vitesse, ou simplement le fait d'être dans un endroit... J'ai autant de mal à le décrire que eux, parce qu'en fait, c'est pas forcément évident d'avoir des mots pour ça. Ce tunnel est simplement un passage, j'ai l'impression, entre notre monde et quelque chose et la lumière, si vous voulez. Parce qu'en général, mais ça peut très bien être, ils peuvent très bien voir une lumière. Enfin, ils sont par exemple dans un bloc opératoire, ils voient ce qui se passe autour d'eux avec des détails très précis qu'ils peuvent rapporter. Et puis ils vous disent, et puis le mur du fond a disparu. À la place, il y avait une lumière et je me suis dirigé vers cette lumière. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas forcément eu de tunnel, il y a simplement la lumière qui est apparue. Et après, bon, évidemment, par rapport à cette lumière, tout le reste peut paraître sombre et disparaître. Et à ce moment-là, ils avancent vers la lumière, et puis l'endroit où ils étaient, le bloc opératoire ou la salle de réanimation, disparaît, et ils se retrouvent dans la deuxième phase qu'on peut appeler la phase transcendante. Ouais.
Alors cette phase transcendante, elle est absolument extraordinaire pour l'expérienceur. D'ailleurs, tous ne la font pas, hein, mais pour ceux qui la vivent, c'est évidemment extraordinaire, parce que vous parlez justement d'une lumière, c'est, j'allais dire, une expérience quasi amoureuse.
C'est beaucoup plus que ça.
C'est beaucoup plus que ça.
C'est beaucoup plus que ça. Nous, vous et moi, bon, on connaît l'amour, j'espère. Même un très bel amour, on connaît le sentiment amoureux, on connaît le sentiment d'amour filial aussi qu'on peut avoir pour un enfant, pour ses parents, pour des amis. On a des notions de l'amour, on a des aperçus sous plusieurs facettes. Là, ce que vous disent les expérienceurs, c'est que l'amour qu'ils ont ressenti était quelque chose d'absolu, ils baignaient dedans. Ils vous parlent d'amour inconditionnel, ben ça c'est des mots, mais ils n'ont pas de mots pour décrire ça. C'est pour eux, c'est pratiquement le plus beau souvenir de leur vie, et c'est une des choses qui leur laisse une nostalgie tout au long de leur vie, après au retour, parce que ils ont connu quelque chose et ils savent qu'ils ne retrouveront pas ça ici et maintenant. C'est quelque chose d'immense. Enfin, c'est quelque chose qui les enveloppe. Il y en a qui m'ont dit, là-bas, il faisait amour comme ici, il fait chaud. Ouais. C'est quelque chose qui est omniprésent, qui est ce qui les marque le plus dans l'expérience.
Oui. Alors, il y a aussi l'impression d'instantanéité, c'est-à-dire que certains expérienceurs disent, voilà, je me posais une question, j'avais tout de suite la réponse. Elle surgissait au même instant que la question. Donc, une connaissance totale, globale et instantanée de tout.
Oui, ça voilà, quand il y a cette espèce d'échange avec un être de lumière, ou simplement le fait de se poser des questions dans cet état-là, c'est effectivement instantané, c'est-à-dire que les réponses viennent en même temps que la question. C'est un ensemble d'informations, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose... et c'est ce qui fait que beaucoup de gens reviennent avec, même s'ils n'ont pas forcément posé la question « la vie, ça sert à quoi ?», ils reviennent en ayant compris un certain nombre de choses qui changent leur façon de voir la vie.
Et c'est un espace-temps totalement différent d'une autre aussi. Hein, les notions de temps et d'espace, d'ailleurs, n'ont même plus cours au cours de ces expériences.
La notion de temps en particulier, elle est complètement... différentes. Les expérienceurs vous disent j'étais dans un éternel présent. Ou alors il y avait deux sortes de temps. Par exemple, quand ils sont, eux, dans leur propre espace-temps, et ils voient ce qui se passe dans le bloc opératoire, il y a un déroulement. Il y a une pince qui tombe, l'infirmière qui se baisse, qui la ramasse, qui se fait engueuler. Bon, ça, c'est séquentiel, comme on a l'habitude de le vivre. Donc, ils voient quelque chose qui se passe dans notre univers, d'une certaine manière, avec un temps qui se déroule. Et en même temps, eux, ils vous disent « j'étais hors du temps ». Et la façon dont on peut comprendre ça, c'est un peu comme un astronaute qui est dans sa capsule, qui est en apesanteur, parce qu'il est en orbite, donc il ne ressent pas les effets de l'apesanteur. Maintenant, si avec un télescope, il regarde sur Terre, il peut voir une pomme tomber d'un pommier, donc il voit les effets de l'apesanteur, mais il n'y est pas soumis. Là, c'est un petit peu pareil par rapport au temps. Les expérienceurs vous disent qu'ils étaient dans il n'y avait pas de temps qui passait. C'est pour ça aussi qu'il y a cette impression d'instantanéité quand il y a des questions-réponses. Ils sont totalement incapables de vous dire le temps que ça a duré. Mmh. C'est à la fois un instant et une éternité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, parce que nous, on est tous soumis à un temps qui est à peu près le même pour tout le monde. Et un temps qui passe, ce qui vient de se passer il y a 2 minutes, c'est fini, c'est passé. Ce qui va se passer dans 5 minutes, on n'en sait rien. On vit l'instant présent et on avance. On a l'impression d'avancer dans le temps ou que le temps passe. Dans cet état-là, c'est totalement différent et c'est indescriptible la plupart du temps.
C'était le docteur Jean-Pierre Jourdan, auteur du livre Deadline, que vous pourrez vous procurer en édition de poche. Deadline est consacré aux expériences de mort imminente. C'est le livre le plus complet jamais publié en France à ce sujet. Nous retrouvons, n'oubliez pas, Jean-Pierre Jourdan dans 4 semaines pour la deuxième partie de cet entretien. D'ici là, passez une excellente fin de journée, d'excellentes semaines à l'écoute de nos programmes, bien sûr.